Alors, ça me rappelle, cette série sur la dépression me rappelle quand j'étais un jeune homme, on était dans une petite ville du Tarn. Il y avait un vieux missionnaire français qui était là depuis très longtemps. Il avait fait du colportage dans tout le Tarn pendant 40 ans. Et le pauvre, il n'était pas dynamique, il était plutôt triste. Il était triste. Bon, il avait eu très très peu de fruits, hein. On peut imaginer, je crois qu'il était même en pleine dépression. Il nous a fait venir le groupe de jeunes dynamiques avec notre chapiteau qu'on a dressé sur la place du village. On a fait des réunions d'évangélisation. Et le premier matin, il dit, j'ai très à cœur que nous médions toute la semaine sur les lamentations de Jérémie. J'ai regardé mon collègue, ça va être tonique. Pour évangéliser, pour avoir la pêche, pour aller sortir, par la foi gagner les âmes au Seigneur, méditer sur les méditations, les lamentations de Jérémie. Effectivement, c'était une semaine un peu déprimante le matin, mais ça allait mieux dans l'après-midi. Non, c'était bien de méditer sur la dépression. C'est important de méditer là-dessus. Quelquefois, les chrétiens, nous chrétiens, on nous fait croire du moins, on ne sait pas qu'on nous fasse croire, c'est qu'on arrive à croire comme ça, sans que personne ne nous le dise. Que la vie chrétienne, c'est quelque chose de merveilleux, ce qui est tout à fait vrai, et que normalement, il n'y aura pas de problème, ce qui est tout à fait faux. La vie chrétienne est quelque chose de merveilleux, mais comporte des problèmes. Des problèmes inhérents à la vie chrétienne. Des problèmes que les inconvertis n'ont pas. Mais, comme nous sommes dans des corps humains, avec un esprit humain, avec un psychisme d'hommes et de femmes, quand Dieu nous sauve, il nous pardonne nos péchés, mais il ne nous met pas une petite puce électronique là-dedans pour arrêter toute pensée négative. Il nous laisse libres de penser comme nous avons toujours pensé. Il veut changer notre manière de penser. Il permet toutes sortes de circonstances de nous arriver comme aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et quand ça arrive, les gens qui nous connaissent, mais qui ne connaissent pas Dieu, que nous disent-ils? Ils nous disent, toi tu es pourtant croyant. Oui. Mais tu es même très zélé, tu vas à l'église tous les dimanches, et même dans la semaine, oui. Et ton Dieu, il ne te protège pas mieux que ça? Que nous, on aurait ce problème, on le comprendrait, mais toi, croyant, quand même, je ne sais pas ce qu'il fait votre Dieu, mais ça n'a pas servi à grand chose de te convertir, vu les problèmes que tu as. Parce qu'eux, ils pensent qu'on s'est converti, parce qu'on nous a garanti que si on se convertissait, il n'y aurait plus de problème. Et quand on en a, ils pensent qu'on s'est fait rouler. Jésus n'a jamais promis qu'on n'aurait pas de problème. Il n'a jamais promis qu'un enfant de Dieu, même un enfant de Dieu, qui aime de tout cœur le Seigneur et qui marche dans l'obéissance, il n'a jamais promis qu'on ne passerait pas par les moments difficiles. Il n'a jamais promis qu'on ne connaîtrait pas la dépression. Juste avant de commencer, justement, sur la dépression et le surmenage, qu'est-ce que la dépression? Mais comme dans une route, vous avez une dépression, ça descend. Et espérons que ça remonte. Quand on est dans une route, une dépression, ça descend et puis ça remonte. On sort quand même, mais ça descend d'abord. Et parfois, la dépression est profonde. Et la dépression dans l'être humain, c'est quand notre tonus psychique et physique décline, descende. Tous ceux qui ont connu la dépression, même dans ses premiers stades, ils vous diront, je suis épuisé. Je fais la moitié de ce que je faisais il y a un an et je n'en peux plus, je suis complètement crevé, mes nuits et jours. Je me lève fatigué, je me couche fatigué, je ne sais pas ce que j'ai. Vous connaissez, vous avez entendu ça? Vous avez déjà vécu ça? Dépression du tonus psychique et physique. Ça dérègle notre humeur. Des gens qui normalement sont top, tout pareil de trop. N'importe quel fardeau pèse une tonne. Et ils deviennent moroses, découragés. Parfois même, quand ça va très loin, ils sont dégoûtés de la vie. Ils disent, ça ne vaut même pas la peine de vivre. J'en ai marre. Combien de fois on a entendu cette phrase et parfois on l'a dite. J'en ai marre de tout. Vous avez jamais dit cette phrase? J'ai marre de tout. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que je ne suis pas en forme. C'est la dépression. Quand on est en dépression, on n'arrive pas à penser normalement. Les gens nous font une phrase simple, on ne comprend rien. On dit, répète, j'ai rien compris. Ils répètent, on a toujours rien compris. On n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à capter ce que disent les gens. Quelqu'un veut développer une idée, on n'arrive pas à la capter, on n'arrive pas à la suivre. On est distrait, on n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit. La mémoire, n'en parlons pas, et puis il n'y a pas de volonté non plus. Est-ce que tu veux faire ça? J'ai envie de rien. Laissez-moi tranquille. Ça, c'est le langage de celui qui est en dépression. La dépression est souvent associée au trouble du sommeil. On n'arrive pas à bien dormir. On se lève plusieurs fois dans la nuit. On tourne sur son lit. On est mal. On se lève fatigué. Appétit s'en va. On a envie de rien. On a beau lui préparer un bon repas. Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de manger. Ah, ça me dégoûte. Les fonctions digestives. On ne digère pas bien, on n'est pas bien dans sa peau. On n'est pas bien dans sa peau. Et parfois même des manifestations cardiovasculaires. Des palpitations. Ou alors la tension artérielle descend. On est à 10-6. Et là, on est totalement flappé. Hein? On est complètement crevé. Tout descend. C'est une dépression. Et ça touche tous les aspects de notre être. Alors, il y a bien sûr différentes causes à la dépression. Et si vous avez vécu assez longtemps sur la Terre, vous êtes, peut-être pendant que je vous parle, vous pensez à des moments dans votre vie, vous dites, ah oui, je me souviens. Moi, par exemple, ça m'est arrivé en 1989. 1989, c'était une des plus belles années de ma vie puisque notre troisième fille est née. Et c'était une des années les plus noires de ma vie parce que je suis passé par une espèce de dépression. Bon, ça n'a pas été très loin, Dieu merci. Vu ce que j'ai vu, j'ai d'autres. Mais, je n'avais aucune initiative. Je ne pouvais prendre aucune décision. J'étais passif, j'étais mal. Et donc, peut-être vous pensez à un moment dans votre vie que vous êtes passé par là. Quelquefois, on s'est provoqué par la perte d'un être cher. On perd ses points de repère. Les choses étaient tout bien calées, calibrées dans notre vie. On savait où on allait. Tout était clair. Et tout à coup, le paysage change. Et puis, on est perdu. On ne sait pas où on en est. Aujourd'hui, un des grands fléaux de la société, c'est le divorce. Et le divorce est un grand facteur de dépression. Surtout la personne qui subit. Parce qu'il y a cette pensée, la personne qui a dit qu'elle m'aimait, ne m'aime plus. Je dois ne rien valoir. Je ne vaux rien. Parce que si je valais quelque chose, cette personne m'aimerait. De penser qu'on ne vaut rien, déjà, quand ça s'installe dans notre psychisme, on descend, n'est-ce pas? Et du coup, on n'a envie de rien. Alors, le surmenage, on va voir dans la vie du prophète Élie un peu ce que ça a fait chez lui. C'est une histoire bien connue, mais je l'ai revisité un peu cette histoire et je me suis dit, mais ce pauvre homme, à un moment donné, ce grand prophète que l'on admire tellement, il craque. C'est pas qu'il craque, il se fissure. Que dis-je? Ça déchire. Il s'effondre. Il s'effondre en une seule phrase. Et on est là quand on lit le récit la première fois, qu'on tombe sur ce récit, on dit, c'est pas vrai, pas lui, pas Élie le prophète. Mais regardez ce qu'il dit. C'est le chapitre 19 et le verset 4. 1 Roi 19 et le verset 4. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. C'est pas de la dépression, ça? Il demande la mort. Je veux mourir. En disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je veux mourir. Bon, il demande à Dieu, enlève ma vie. Il ne se suicide pas. Il dit, si tu pouvais t'arranger pour que je meure à l'instant sous cet arbre, ça m'arrangerait bien. Je n'en peux plus. C'est le surmenage. Alors, il y a dans la vie d'Élie, avant ce moment de crash, il y a tout un cocktail, tout un mélange explosif de pression, d'événements, d'influences, de pensées, de circonstances qui vont l'amener à ce point-là. La première chose que nous voyons, c'est un certain stress. Le stress, dans le chapitre 10-17, nous lisons dans le premier verset du chapitre 17, « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Acab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Il annonce une sécheresse générale, absolue, jusqu'à ce qu'il reprononce la pluie. Il n'y aura pas de pluie et même pas de rosée, sauf quand lui-même le dira. Vous dites, bon, ben, il a le bon rôle, c'est lui qui contrôle par la puissance de Dieu le temps, il a la capacité de mettre une sécheresse sur tout son pays, il devrait être fier d'avoir tellement de puissance. Oui, mais réfléchissez, si vous étiez à sa place, il doit se sentir responsable d'une sécheresse qui va appauvrir le pays qu'il aime. C'est quand même son pays. Ce sont ses voisins qui vont souffrir. Ce sont des gens qu'il aime qui vont souffrir. Ce sont des bêtes qui n'ont rien demandé, des vaches, du bétail, qui vont souffrir, qui vont mourir de soif. Il le sait. D'ailleurs, vers la fin de cette période-là, Acab et son serviteur, le roi du pays, partaient chacun de son côté, chercher de trouver encore une petite source d'eau, parce que le bétail du roi mourait. Il n'y avait pas de quoi boire. Tout était sec depuis 3 ans. Se sentir responsable pour l'appauvrissement, pour le désespoir de tout son peuple, si ça ne met pas le stress, je ne sais pas. Et puis, quand il annonce cela, la Bible dit qu'Acab, évidemment le roi du pays, qui était un idolâtre, qui avait une femme qui était une teigne, Jézabel, c'était terrible. Mais il est perçu comme l'ennemi public numéro un. Celui qui a décrété cette sécheresse, ce fameux Élie le Tishbite, ce prophète de l'Éternel, c'est par sa parole qu'on n'a plus de pluie, on n'a plus de rosée. C'est notre ennemi numéro un. Il est l'ennemi du roi. Et le roi le déteste et le roi cherche dans tous les coins pour le prendre, pour le tuer. Être perçu comme l'ennemi public numéro un. On a eu ce Beslam, Abdel Beslam, ce monsieur qui était en Belgique, n'est-ce pas, que toutes les polices d'Europe recherchaient. Ça met un stress de savoir que des milliers de personnes, nuit et jour, sont en train de vous chercher pour vous mettre en prison. Mais imaginez, il savait que l'armée d'Israël était en train de le chercher pour le coffrer, ou le tuer. Parce que c'est par sa parole que cette terrible sécheresse est venue. Et puis alors, le stress augmente parce que, verset 3, Dieu dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Imaginez que ce soit vous. Et le Seigneur vous dit, tu vas te cacher près d'un torrent et tu seras nourri par les corbeaux. Là, vous priez matin et soir, Seigneur, je ne vois pas de corbeaux, fais qu'ils viennent bientôt parce que j'ai très faim. Est-ce que vous imaginez si notre alimentation dépendait de ce que les oiseaux nous apporteraient? Bon, c'était un miracle. Mais quand même, manger tout ce qu'on mange vient d'un bec d'un oiseau et d'un rapace en plus. Petit bout de viande, petit bout de pain, petit bout de viande, petit bout de pain, matin et soir. Boire de l'eau et ne rien faire. Vous vous cachez, vous êtes à côté du torrent, vous n'avez personne à qui parler, vous êtes caché, vous êtes seul, vous êtes en pleine nature, c'est un coin désertique. Boire, manger matin et soir, un peu de pain, un peu de viande. Là, il y a de quoi être stressé aussi. Ne pensons pas que c'est les vacances, je me la coule douce, je mets ma tête sur la pierre, je dors la nuit, c'est le Club Med. Non, c'est un moment difficile. Il est seul, livré à lui-même. Moi, je ne sais pas ce que je ferais si je devais passer plusieurs mois sans bouquin à lire. Je deviendrais fou, je pense. Mais je ne sais pas combien de parchemins il pouvait avoir à sa disposition pour lire. Il est seul, en attente, désœuvré. Apparemment, Dieu ne lui donne pas de nouvelles révélations pendant ce temps-là. Il est caché. Et il attend. Il attend que ça se passe. Et pendant ce temps-là, la terre se dessèche. Son royaume va de plus en plus mal. Ensuite, le torrent se dessèche. Et on peut imaginer le stress qu'un homme peut éprouver à dire, je tire toute mon eau de ce torrent et je le vois qui descend, qui descend, qui descend. Et puis là, il n'y a plus rien que des cailloux. Il n'y a plus d'eau. Et heureusement, Dieu a la bonne idée de lui parler. Maintenant, tu vas partir à Sarepta. Seulement, Sarepta est à 80 km au nord. Il va quitter le territoire national. Il quitte la terre d'Israël. Et pour un juif, c'est difficile de quitter sa terre. C'est la terre bénie par l'Éternel. C'est la terre donnée à Abraham, Isaac et Jacob. C'est la terre donnée à Josué et 12 tribus. Où va-t-il aller? Il va aller en Phénicie. Aujourd'hui, c'est le Liban. Il va aller à l'étranger. Et que va-t-il faire? Il va trouver une pauvre petite veuve qui a un fils. Et nous avons le récit de cet entretien quand il fait tous ces kilomètres. Et verset 11, il trouve cette veuve, parce que Dieu le dirige vers la ville de Sarepta. Il trouve cette pauvre femme et le Seigneur lui dit, c'est elle, donc d'accord. Il s'approche d'elle et il dit, verset 11, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » D'accord, ok. Elle lui porte un peu d'eau. Il appela de nouveau, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Ok, elle a porté de l'eau, elle peut bien porter un bout de pain. Seulement, qu'est-ce qu'elle répond? Verset 12, elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Seigneur, tu n'aurais pas pu m'envoyer chez quelqu'un d'un peu plus fortuné. Hein? Je veux dire, aller chez quelqu'un de riche et dire, voilà, le Seigneur m'envoie vers vous, il n'y a pas de problème, on a un appartement par ici, ou si tu préfères celui-là, le repas sera servi à telle heure, les domestiques vont s'occuper de tout. Pas du tout. Il fait 70 kilomètres pour trouver une veuve qui va manger son dernier repas et mourir de faim. Et c'est vers elle que Dieu l'envoie pour qu'il continue à manger. Bien sûr, c'est la scène d'un miracle, parce que Dieu dit à Élie de lui dire, de toute façon, prépare-moi d'abord à manger, après tu verras, il restera encore dans le pot, et de la farine, et de l'huile, aussi longtemps que durera la famine, jusqu'à ce que tu aies moyen d'en avoir d'autres, ça ne manquera pas, on mangera tous les trois, jusqu'à la fin de l'épreuve. Et c'est ce qui se fait. La veuve, son fils et Élie mangent et Dieu multiplie la nourriture jour par jour jusqu'à la fin de la sécheresse. Un grand et beau miracle. Mais ce grand et beau miracle, encore une fois, on se met dans la peau d'Élie. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme, vous avez la fierté d'un homme. Vous êtes un prophète de Dieu. Dieu vous parle, vous avez la puissance de Dieu. Et Dieu vous oblige à aller vivre au crochet d'une veuve. D'une veuve pauvre, qui a un seul fils. Vous voilà, vous êtes prophète, vous habitez dans une chambre au premier étage. Elle et son fils vivent au rez-de-chaussée. On prend les repas ensemble tous les trois. Vous êtes à l'étranger. Est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'on fait des choses renversantes pour Dieu? Il y a un stress ici. Il y a une solitude ici. Il n'est pas en train de parler avec d'autres croyants. Il n'est pas en train de faire des réunions de prière avec des gens zélés pour l'éternel. Il est tout seul, à l'étranger, avec une pauvre veuve. Déjà, un homme normalement constitué ne veut pas vivre au crochet d'une femme. Ne veut pas sentir ce désagrément de dire « je dépends de celle qui fait la cuisine, je ne peux même pas la payer ». Bon, le Seigneur nous garde tous les trois en vie. Mais avouez quand même que si les besoins de base sont couverts, humainement parlant, parce qu'il y est un homme, c'est pas très triomphant toute cette histoire. Et ça dure un certain temps. Il y a donc ce stress. Il y a la solitude à Kérit, dans un coin désertique. Maintenant, revenons à notre propre vie. Est-ce que vous avez vécu des moments où vous vous sentiez responsable d'un malheur, comme Élie s'est senti responsable du malheur de son peuple, indirectement, parce que c'est lui qui a dit « il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». Bien malgré vous, des choses vont mal et quelque part on vous fait porter le chapeau. Vous vous dites « oui, ben c'est de ma faute, c'est moi qui ai gaffé ou c'est moi qui me suis trouvé là » et d'une certaine manière, le malheur des autres et la souffrance des autres, c'est un peu de ma faute. Ça met un stress. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, ça met un stress. Un parent dont l'enfant se détourne de Dieu, dont l'enfant finit en prison, on a des amis, leur enfant est en prison, il est quasiment impossible que le parent ne se sente pas responsable. Quelque part, mon fils est en prison. Quelle est ma part de responsabilité? Donc, se sentir responsable indirectement même du malheur des autres, ça peut être un facteur de stress. La solitude. Dans ces situations-là, on a l'impression d'être tout seul. On regarde d'autres gens, on dit oui, ils ont des problèmes, mais pas comme les miens. Les miens sont plus graves que les leurs. Ou bien leur problème a duré un an, le mien il dure depuis 12, 13, 15 ans. Et d'ailleurs je n'en vois pas la fin. C'est le cas de ceux qui ont des enfants lourdement handicapés. Ils aiment leurs enfants, ne veulent pas les voir mourir. Je pense à quelques familles de nos amis qui ont des enfants lourdement handicapés et ils ont ce stress, qu'arrivera-t-il à mon enfant si je devais partir avant lui? Et en même temps je ne voudrais pas qu'il parte avant moi. C'est malheureux que les parents enterrent leurs enfants. Voyons comment ça peut vraiment peser sur quelqu'un. C'est un stress, c'est terrible. La solitude. La troisième chose que nous voyons pour Élie, c'est la tension. Et une tension, une ambiance. Cette tension éclate au grand jour dans le verset 17 du chapitre 17. Ils sont en train de manger leur farine et leur huile, leur petit gâteau, tous les jours, la veuve, le fils et Élie, et puis tout à coup le fils de la veuve tombe gravement malade. Et tellement malade qu'il ne respire plus. Et verset 18, cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Ouh. Et ça arrive de nulle part, comme une tempête, comme un éclair, comme un tonnerre. Ils mangeaient gentiment ensemble, ils vivaient gentiment ensemble, tous les trois dans cette maison. Le prophète de Dieu, elle sait que c'est un prophète de Dieu. L'enfant tombe malade et tout à coup, elle se tourne contre Élie. Genre, c'est de ta faute! C'est un peu ce qu'elle dit. Bon, pourquoi dit-elle cela? Ben voilà une femme qui est sous un fort stress, qui tombe en dépression devant elle, qui tombe en miettes, parce que son seul fils, sur lequel elle comptait pour sa vieillesse quand même, est pratiquement mort. Elle pense qu'il est mort. Il allait bien avant l'arrivée de ce prophète, il allait bien ce temps-là, mais voilà, le prophète est arrivé, quelques temps après mon fils meurt, ça doit être la faute de cet homme. Il arrive comme ça, prophète de l'Éternel, il mange mon pain. Peut-être se souvenait-elle quand même que c'est parce qu'il était là qu'elle avait encore du pain. Mais à qui la faute? Ben voilà. Et puis on découvre quelque chose dans la vie de cette femme. Apparemment, elle a fait quelque chose dans son passé qui était grave, un péché. Et elle se dit, le prophète de Dieu est venu, et maintenant le Dieu de ce prophète est en train de me punir, il me fait porter maintenant le poids de mon péché. Je pensais que c'était passé, mais non, vlan. Est-ce que le prophète de Dieu m'a maudit? Tout est possible. La pauvre femme ne sait pas. Mais elle soupçonne. Ton Dieu est en train de me faire payer maintenant mon iniquité. Et c'est sur la vie de mon fils qui me le fait payer. Que ce serait moi, ce serait une chose, mais mon pauvre enfant en train de mourir à cause de mon péché, et c'est un peu de ta faute. Vous parlez d'une tension, et il devait se sentir très mal. Verset 19, donne-moi ton fils. Il prend le fils, il l'amène dans sa chambre haute, il s'étend sur lui, et il dit à l'Éternel, verset 20, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. On sent toute la tristesse, tout le désespoir, toute l'incompréhension d'un prophète de l'Éternel qui dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est toi qui m'as envoyé ici, c'est elle qui pète les plombs, c'est toi qui permets que cet enfant meure apparemment, et elle me blâme, et tu sais que ce n'est pas de ma faute, et Seigneur, c'est comme ça que tu récompenses les gens qui te traitent bien tes serviteurs? Il y a un peu de tout ça dans cette prière. Dieu répond, l'enfant revit, et il descend parfaitement guéri. Ça se termine bien. Parce que verset 24, la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Peut-être vous dites, « Écoute, pourquoi tu nous parles comme ça? On voit bien que Dieu a fait des miracles, Dieu a soutenu Élie, Dieu a répondu à ses prières, ils ont eu la multiplication de farine et d'huile, ils ont eu l'enfant qui a repris vie, ils vivent de miracles ces gens-là, il a même fait venir les corbeaux pour le nourrir. Où est le problème? Cet homme devrait nager dans le bonheur, il vit des miracles tous les jours. » Et on peut dire la même chose de chacun de nous. Nous avons un Dieu plein d'amour, nous avons les promesses de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous console, nous avons le ciel qui nous attend. Où est le problème? Mais voilà, nous sommes quand même des hommes. Et nous avons du stress et nous avons des situations qui sont parfois difficiles à gérer, tout sauvés que nous sommes. Et ce qui est rafraîchissant, c'est que dans la parole, même les plus grands hommes de Dieu ont connu ces moments d'humanité, de stress, de difficulté que nous connaissons. Et leur exemple nous inspire. Donc, la tension. Alors, la tension avec la veuve, la tension de rencontrer Akab, parce qu'au chapitre 18, verset 17, Dieu dit à Élie à la fin de toutes ces aventures, maintenant tu vas rentrer en Israël à côté d'Akab, tu vas le voir, tu vas le convoquer et on va régler ce problème de qui est le vrai Dieu. Et donc il doit confronter Akab. Il sait qu'Akab veut sa peau. Akab veut le tuer et on le comprend. C'est par Élie que cette sécheresse, la moitié du bétail est mort, enfin c'est une catastrophe pour le pays. C'est une catastrophe économique, une catastrophe humaine, c'est horrible. Et alors, à cause d'Élie. Et donc la rencontre n'est pas paisible. Verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Il y répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Généralement, on n'aime pas trop la confrontation. Il y a des gens qui aiment la confrontation, mais la plupart des gens n'aiment pas la confrontation. Si vous savez que demain matin, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous déteste et qu'il va vous rentrer dedans, vraiment, verbalement, vous n'aurez pas envie d'aller le voir, n'est-ce pas? On n'aime pas la confrontation. On peut imaginer, même chez Élie, le puissant homme de Dieu, Achab, ça ne va pas être paisible. Et puis, il faut rencontrer et confronter tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel. 850 prophètes de Baal et d'Astarté et tout le peuple. Et ces moments, scènes mémorables, jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, adorez-le, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Et préparez maintenant en sacrifice et invoquez le nom de votre Dieu. Et moi je ferai de même, et le Dieu qui répond par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Tout le monde est d'accord pour l'expérience? On passe trois quarts de la journée à crier vers Baal pour qu'il envoie le feu. Rien ne se fait. Vers le soir, il y met son sacrifice en place, fait verser 12 barils d'eau sur l'ensemble, que rien ne puisse s'allumer. Il y en a une prière qui dure 15 secondes. Dieu répond par le feu et brûle tout. L'eau, les pierres, le bois, le sacrifice, il n'y a rien qui reste. Le feu de l'Éternel a tout consumé. Et le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Évidemment, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils en avaient la preuve. Ils en avaient la preuve. Quelle journée! Quelle journée mémorable! Mais avouez qu'il y a quand même du stress. Il y a de la fatigue. Il y a les nerfs qui sont mis à rude épreuve. Dès lors que le peuple reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est donc pas Baal qui est Dieu. Et la Bible dit dans les cinq premiers livres que si un prophète vient au nom de Dieu et que ce n'est pas le vrai Dieu, ce prophète doit être mis à mort. C'est dans la loi de Moïse. Et il dit, il faut que ces 850 faux prophètes soient mis à mort. Il les a tués lui-même, en bas de la montagne. Ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions. Mettons-nous un instant dans sa peau. Ensuite, tout de suite, il dit à Achab, maintenant, on va prier pour la pluie. Tu peux atteler parce qu'il va bientôt pleuvoir. Ça faisait 3 ans et demi qu'il n'avait pas plu. Il va bientôt pleuvoir. Mais oui, il n'avait pas encore plu. Il n'y a même pas la trace d'un nuage. Et on voit notre Élie qui, au sommet du mont Carmel, il devait être assez souple parce qu'il s'abaisse et met sa tête entre ses genoux et il commence à prier que le Seigneur envoie la pluie. Et son serviteur se tient à côté de lui et il dit au serviteur, va maintenant un peu plus loin et vois si tu vois arriver un nuage. Non, il n'y a pas de nuage. Il prie encore, Seigneur, va maintenant voir s'il y a un nuage. Non, il n'y en a pas. Il prie encore 7 fois comme ça. C'est un peu comme Naaman. Vers la 5e fois, vous commencez à désespérer. Il priait. Dieu avait répondu par le feu, maintenant il faut que Dieu réponde par la pluie, mais Dieu le fait prier 7 fois, avec zèle, avec angoisse, avec détermination. Et la 7e fois, le serviteur dit, oui, il y a un petit nuage qui a la taille de la main d'un homme. C'est bon, on va dire à Achab, attelle vite, descends, parce que sinon tu vas être attrapé dans la boue. Des moments glorieux, c'est des moments absolument merveilleux. Et la Bible dit, quand Achab s'est monté dans son char pour descendre à Jisraël, qui est à peu près à 40 kilomètres, l'Esprit de Dieu saisit Élie et il a couru devant le char d'Achab, 40 kilomètres. Même si l'Esprit de Dieu le saisit, il a quand même, s'est quand même servi de ses jambes et de ses poumons. Imaginez cette journée-là. Quelle journée incroyable, un épuisement physique. De là, il descend à Jisraël devant Achab, c'est la capitale à l'époque. Et il doit penser, ça y est, tout ce travail, ces 3 ans de sécheresse, ces années acquérites, le temps passé chez la veuve, tout ce stress que j'ai eu, la confrontation avec les prophètes, j'ai pu mettre les prophètes à mort, le Seigneur a répondu par le feu, tout le peuple d'Israël est uni, l'Éternel est Dieu. C'est le réveil. Enfin, Dieu est vainqueur. Il est épuisé, mais il pense que c'est bon. Enfin, à sa place, on penserait que c'est bon. Et qu'est-ce qui arrive? La reine Jézabel donne un édit, une sorte d'ordre que les dieux, c'est-à-dire mes dieux à moi, les dieux des Philistins, les dieux des Phéniciens, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. C'est-à-dire que mes dieux me condamnent et me punissent et me détruisent. Si d'ici 24 heures, Élie, tu ne finis pas comme les prophètes que tu as tués aujourd'hui. Quand même, tu as tué 850 de mes prophètes, dit Jézabel. D'ici 24 heures, tu es mort. Et le roi Akab là-dedans. Où est le roi Akab? Pourquoi ne dit-il pas à sa reine, toi maintenant tu te tais. Tu m'as assez abusé comme ça, je t'ai épousé, moi, nous ici on adore notre Dieu à nous, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob, toi tu as adoré Baal et Astarté, ça c'est ton problème, ça c'est ton droit, va-t-on dire, mais ici tu es chez moi et tu vas adorer l'Éternel, et c'est fini ces balivernes sur Abel, enfin, plusieurs Baal et Astarté, au Mont Carmel, tes dieux n'étaient pas fichus d'envoyer le feu, et notre Dieu à nous, le Dieu d'Élie, il a envoyé le feu. Alors moi, c'est maintenant, ça s'arrête. Pas Akab. Pauvre Akab. Oui, moi, chérie, oui, c'est vrai qu'il les a tués tous, les pauvres malheureux. Ben oui, c'est ce que je te dis. Il faut qu'ils meurent. Mais oui, si tu veux, ma chérie. Alors, comme colonne vertébrale, il y a mieux, hein. Une vraie lanette, cette Akab. Et elle prend le pouvoir. Elle dit, toi, tu es mort. D'ici 24 heures, tu es mort. Vous imaginez l'homme de Dieu qui dit, c'est le réveil, le peuple va prendre position pour moi. Personne ne remue le petit doigt, personne ne fait une manifestation de soutien à Élie. Il n'y a pas de cordon de sécurité autour du prophète pour dire, Jézabel, tu n'as pas intérêt à t'approcher. Notre prophète à nous, c'est lui qui a envoyé la pluie, c'est lui qui nous a ramenés vers l'Éternel, c'est lui, pas lui qui va mourir, si quand on va mourir c'est toi, mais c'est pas lui. Ah non, personne qui lève le petit doigt. Qu'est-ce qu'ils avaient dit le peuple? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel, mais c'est pas les plus loin. Et le pauvre prophète s'aperçoit que les gens du bout des lèvres disaient « Oui, l'Éternel est Dieu », ils étaient obligés de le dire. Mais il n'y a personne qui va prendre position. Et ça, c'est un sujet de parfois de déprime pour les pasteurs et pour les chrétiens qui sont vraiment engagés. Si vous êtes un chrétien engagé, vous êtes là, vous venez, vous témoignez, vous priez, vous voilà, et vous essayez de soutenir l'œuvre de Dieu, et puis la salle se remplit de gens très souriants, et puis quand il faut faire un effort, il n'y a plus personne. Et alors on dit, là maintenant on est nombreux, ça va être bien, on est un groupe de disciples, nos forces sont décuplées, c'est formidable, et quand il faut y aller... Où est tout le monde qui a dit « Hourra, hourra, béni soit l'Éternel, on est avec vous. » Où sont-ils? Ah, j'avais un empêchement. Oh, mais je suis un peu fatigué. Machin, tout. Et puis, c'est toujours les mêmes. Et c'est comme ça qu'Élie se sentait. C'est toujours les mêmes. Bah, pas les mêmes, le même. Je suis tout seul. Finalement, au bout du compte, malgré le feu qui est descendu, malgré cette grande confrontation, je suis aussi seul qu'auparavant. Et c'est d'autant plus terrible que tout le peuple a bien proclamé que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais ça ne change rien à leur vie. Toute cette privation, c'était pour rien. Toute cette sécheresse, toute cette souffrance, ces années acquérites, ces années chez la veuve, cette confrontation, tout ça, c'est pour rien. C'est un échec, j'ai échoué. Voilà ce que pense Élie. Il est épuisé physiquement. De Jisraël jusqu'à Beersheba, où il va descendre 130 km à pied, après les 40 km de course qu'il a fait. Et puis, de Beersheba, il fait encore une journée de voyage dans le désert, et il tombe sous un arbre, et il dit ce qu'on a lu en début de message, c'est-à-dire, ôte-moi la vie, je ne suis pas meilleur, j'en ai marre, je veux mourir. Et là, ça craque, ça se fissure. Qu'est-ce qu'il y a? Le stress, la solitude, toutes ces situations de tension, cet épuisement physique, voilà le cocktail dangereux qui va produire le surmenage et la déception. La déception, c'est ça qui tue. Quand on est fatigué, quand on est même très fatigué, mais on sent que les affaires avancent, on sent qu'on réalise ses objectifs, hein, ça avance, on sent que ça progresse, on n'est pas découragé, on est fatigué, mais on tient le bon bout, comme on dit. On dit, c'est bon, ça va, je suis un peu sur les rotules, mais ça va, j'en ai encore à revendre, vous savez, c'est bon. Mais quand on est épuisé et puis tout s'effondre, ils ont dit, toute cette fatigue, tout ce travail était pour rien. Alors là, on a envie de jeter l'éponge. C'est bon, ça suffit, moi, c'est terminé. Et c'est ce que vit Élie. Il est surmené, il est déçu, il est contrarié, tout son travail est pour rien. Toute cette privation, pour rien. Et pour couronner le tout, la culpabilisation. Il se culpabilise. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah bon, parce que tu crois que tu es meilleur que tes pères? Et là, ce qui nous tue aussi, c'est nous comparer à d'autres. Surtout, si au début, on dit, je crois quand même que je suis meilleur. Je pense quand même que par rapport à mes ancêtres, par rapport à mes pères, par rapport à ceux qui sont autour de moi, je crois quand même que je suis plus fidèle qu'eux. Et il dit, ah non, c'est... Ils ont échoué, moi je croyais réussir, j'ai échoué comme eux, lamentablement. On est des moins que rien, de père en fils, c'est même pas la peine de continuer l'expérience, finissons-en. Voilà ce qu'il dit. J'ai échoué. Ok, on n'a parlé que du surmenage, la dépression, d'Élie, étape par étape, toutes ces causes. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il a échoué? Est-ce vrai qu'il a échoué? Non, pas du tout. Il a parfaitement réussi, malgré toute son impression du contraire. Il a réussi, mais vous dites, mais il n'a pas réussi. Le peuple n'est toujours pas l'Éternel, Jézabel dirige toujours les affaires, il est totalement découragé, il n'a pas réussi. S'il a réussi, Dieu va lui montrer. Premièrement, Dieu va s'occuper de son corps. Et quand on est surmené, il faut savoir s'occuper de son corps. Il va dormir, il ne peut pas faire autrement. Il est crevé. Il va dormir, Dieu ne dit pas, oh, lève-toi, prie maintenant, hey, tu es un prophète de Dieu, tu n'as pas le droit de dormir, va et prie nuit et jour. Non, 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 il laisse dormir. Ce pauvre homme, il a faim, il a faim de loup, il vraiment, tout ce qu'il a fait, son corps réclame de nourriture, alors le Seigneur le réveille et lui donne un bon repas à manger, cuit sur les pierres là dans le désert, préparé par les cuisines du ciel. Et il se rendort et le Seigneur lui permet de faire une deuxième longue sieste. Et il dort. Et il se réveille, Dieu lui donne un deuxième repas. Ça devait être un très bon repas et de très bon sommeil parce que, avec la force qui lui a donné ses repas et ce sommeil, il a marché 40 jours jusqu'à Horeb, qui est dans le Yémen. C'est loin. Il est allé là-bas où Moïse avait rencontré le buisson ardent. Il est allé sur cette montagne où Dieu s'est entretenu avec ses serviteurs, à Horeb. Et là, il rencontre Dieu. Il rencontre Dieu et Dieu est le meilleur des psychologues. Parce que Dieu lui dit, exprime-toi, dis-moi ce que tu as sur le cœur. Dieu n'a pas dit, bon, Assieds-toi, je vais te faire un cours de psychologie. D'abord, tu as fait une dépression, ce n'est pas bien. Ne parle pas, je ne veux rien entendre, je vais t'expliquer les choses. Non, Dieu dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Quand vous allez voir un psychologue ou voir le pasteur, c'est une excellente question. Ils disent, pourquoi êtes-vous venu? Vous êtes venu pour une raison. Exprimez-vous, je veux savoir qu'est-ce qui vous amène ici. C'est libérateur. Je vais raconter mon problème. Le raconter déjà, c'est moitié guérir. Parce que ce qui fait mal, c'est d'avoir un problème et ne pas pouvoir le dire à quelqu'un qui nous écoute vraiment. Alors il va dans cette montagne. Dieu, quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse n'avait pas le droit de parler. Il a dit, voilà, j'ai un ordre pour toi, tu vas faire ça et ça et ça. Oui, mais je... Non, tu vas le faire quand même. Oui, mais non, tu vas le faire. Là, Dieu dit, pourquoi tu es là? Et là, on voit tout ce discours et on voit tout le problème de sa dépression qui ressort. Le prophète s'exprime parfaitement. Il dit d'abord, ils ont tué tes prophètes. Ce peuple s'est dressé contre toi, cette Jézabel, il ne l'a pas nommé, mais c'était tout comme, cette Jézabel est contre toi et tes serviteurs, et devine quoi, Seigneur, je suis le seul serviteur, je suis le seul homme qui t'aime dans tout le royaume. Il l'a dit trois fois. Il était convaincu. Je suis resté seul et elle cherche à me tuer aussi. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Il n'y a personne qui t'aime comme moi. Il n'y a personne fidèle comme moi. Je suis le seul serviteur qui te reste, Seigneur. Et tout ton peuple est dressé contre toi. Voilà. Voilà ce que je suis venu te dire. Et le Seigneur lui fait voir trois phénomènes énormes, des mini-tornades, un feu qui brûle les rochers. Enfin, trois phénomènes incroyables que seul Dieu peut faire. Ça devait être un spectacle. Et il lui-même devait avoir peur dans une caverne, et puis il sort, et puis il voit, et puis il a peur, il a peur. Et la Bible dit, Dieu n'était pas dans ces phénomènes spectaculaires. Mais Dieu s'exprimait avec un murmure doux et léger. Quelle est la leçon ici? Quand nous sommes surmenés, quand nous sommes en dépression, on dit, je voudrais que Dieu fasse quelque chose de grand. Je me suis crevé pour lui, je me suis donné, j'ai été fidèle, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'il faut, je suis fidèle. Maintenant, que Dieu fasse quelque chose de grand. Dieu a fait quelque chose de grand. Il a envoyé le feu sur le sacrifice, il a fait. Il a convaincu le peuple, théoriquement, qu'il était le seul vrai Dieu, le peuple l'a dit. Est-ce que ça a changé l'attitude du peuple? Non. Est-ce que ça les a rendus plus fidèles à l'Éternel? Non. Est-ce qu'ils ont défendu Élie, le grand prophète? Non. C'est comme si Dieu n'avait pas agi. Il a fait un grand miracle, ça n'a produit aucun changement. Où est-ce que Dieu travaille? Quelle est l'œuvre de Dieu? Parfois, il fait de grandes choses. Mais Dieu travaille avec un murmure doux et léger. C'est-à-dire, Dieu travaille dans nos cœurs quand on l'écoute vraiment. Il travaille quand les gens l'écoutent. Quelquefois, on est dans une église, le pasteur, j'étais pasteur, on dit, ça traîne, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, où est le zèle? Les gens, ils sont amorphes. Moi aussi, je commence à l'être. Faisons quelque chose de grandiose. Et puis, oh, on a tout essayé. Oui, mais Dieu continue à travailler quand même. Hein, avec son murmure doux et léger. Un individu par ici, une personne par là, un problème qui se règle ici, quelqu'un qui comprend quelque chose de la parole, qui change son attitude par là. Si on regarde bien, Dieu est toujours à l'œuvre, mais souvent ce n'est pas spectaculaire. Et Dieu montre à Élie, je travaille avec un murmure doux et léger. Regarde, écoute ce que je fais. Ne m'impose pas tes spectacles. Il peut en faire, il en a fait. Il en a fait plusieurs pour Élie. Juste un petit spectacle privé, là. Trois trucs, pam, 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 spectaculaire. Mais la Bible dit Dieu n'était pas là-dedans. C'était pas sa carte de visite. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait parler à son serviteur. Et Dieu parle à son serviteur. Et Dieu agit dans le secret. Puis Dieu lui redresse un peu sa pensée. Il dit, d'ailleurs, monsieur tout seul, le grand prophète solitaire, j'ai 7000 hommes dans le pays d'Israël qui n'ont pas fléchi le genou à la balle. J'ai 7000 hommes qui me sont restés fidèles. Et il devait dire, ben où est-ce qu'ils sont? Moi je ne les ai jamais vus, les 7000 hommes. Hein? Ah, moi je me suis vu moi tout seul, mais je n'en ai pas vu d'autres. Alors moi j'en ai conclu qu'il n'y en a pas d'autres. Et Dieu, il n'aime pas du tout cette attitude. Il se fait fort de lui dire, attends, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas le seul fidèle que j'ai. J'en ai plein d'autres. Alors ne pense pas que tu es indispensable. Ne te dis pas, si je ne le fais pas, ça ne se fera pas. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront. Quand tu ne seras plus là, d'autres gens me serviront à ta place. Et si on le prend du bon côté, ça va nous consoler, ça va nous encourager. Tout le poids ne repose pas sur mes épaules. Quel est mon rôle? C'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Je ne peux pas tout faire. Élie ne pouvait pas, à lui, tout seul, ramener le peuple à l'Éternel. Pourtant, c'était un grand prophète de Dieu. Et Dieu l'a vraiment béni. Et c'est un héros pour nous. Mais pendant un temps, il pensait que tout le peuple d'Israël était sur ses épaules et devait tout porter, tout faire, puis tout y arriver. Et il avait l'impression d'être arrivé quand le feu est descendu. C'était grisant, c'était merveilleux. Mais Dieu lui montre, tu n'es pas le seul, j'ai plein d'autres gens qui me sont fidèles. Et je travaille dans le secret aussi. Et puis Dieu lui le restaure, il finit de le restaurer en disant, je vais te donner un successeur qui va être ton compagnon de tous les instants jusqu'à ce qu'il te remplace, c'est Élisée. Un homme d'une grande qualité, un homme d'une grande sagesse et d'une grande humilité. Et Élisée va faire deux fois plus de miracles que le prophète Élie. Et à partir du moment où il rencontre Élisée, Élisée ne le quittera jamais. Il ne sera plus jamais seul. Il sera bien accompagné. Il avait un serviteur, mais je ne crois pas que c'était du calibre d'Élisée qui va le remplacer. Dieu lui donne aussi une nouvelle mission. Un prophète, s'il avait la chance d'oindre un roi dans sa vie, c'était énorme. Tous les prophètes n'avaient pas cette chance. Mais Dieu lui dit, tu vas régner, tu vas oindre deux rois. Un roi de Syrie et un roi d'Israël. Avoir l'honneur d'oindre comme roi un roi d'un peuple païen, c'est quand même extraordinaire. Et que le roi païen accepte d'être oint par un prophète d'Israël, c'est encore plus beau. Dieu lui donne des honneurs. Et tu vas oindre aussi ton successeur et tu vas continuer à me servir. Dieu lui donne une nouvelle mission. Dieu ne lui dit pas, mon pauvre Élie, tu as fauté. Sous le genêt là-bas, tu as craqué. Moi, j'aime bien cette expression que j'ai entendue il y a bien des années en France. Il a craqué. Elle a craqué. Alors, les gens sont là. Ça y est, il a craqué. Oh. Vous imaginez une fissure comme ça, irréparable, comme un vase en porcelaine, n'est-ce pas? Sa fissure est terminée. C'est bon à être jeté. Quand on craque, Dieu restaure. Il peut recoller les morceaux et peut continuer à se servir de nous. Il a continué à se servir d'Élie. Il ne lui a pas fait de reproches. Il a redressé sa manière de penser. Il a restauré physiquement. Il lui a permis de dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Il lui a redonné un nouveau compagnon d'œuvre. Il lui a donné de l'honneur. Il lui a donné un nouvel objectif. Et Élie est reparti pour continuer son service. Et vous savez, la sortie que Dieu lui a réservée, hein? C'est quand même du beau, hein? De ne même pas mourir, mais de monter dans un chariot en feu. Un homme qui a craqué. Un homme qui a dit, Seigneur, c'est bon, j'en ai marre, tue-moi, c'est terminé. Il a fini glorieusement. Et pour nous aussi, on peut avoir des moments de dépression, de surmenage, ça peut nous marquer, même à vie, ça ne veut pas dire que Dieu a fini de se servir de nous. Il n'a pas peur de nous quand nous sommes déprimés. Il sait nous parler, il sait nous restaurer, il sait nous dire, tu vois, une partie de ta dépression est basée sur les pensées erronées que tu as. Et je veux te corriger ces pensées-là. Je veux que tu penses sainement. Et puis, ne pense pas qu'il faille faire de grandes choses. Laisse-moi voir ce que je fais dans la vie des gens. Reste fidèle. Fais ce que je te dis. Tu n'as pas à porter le fardeau du monde sur tes épaules. Fais juste ce que je te demande de faire. Fais-le fidèlement, fais-le joyeusement et laisse le résultat avec moi. Et ainsi l'Éternel a restauré son fidèle serviteur et lui a donné un nouveau départ. Et c'est ce qu'il veut toujours faire avec nous. Seigneur, nous te remercions pour ces instants et nous te prions que pour chacun d'entre nous qui a connu sans doute des périodes de surmenage, de tristesse, d'angoisse, de trop plein, il y a une petite voix qui nous dit que ça y est, on a fauté, c'est terminé, c'est irrémédiable, c'est irréparable. Merci parce que ce n'est pas vrai. On peut toujours être réparé et restauré par toi. Et nous te rendons gloire et honneur d'être un Dieu d'amour et de compassion. En Christ. Amen.